20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. De l'accordéon ce soir dans le journal du classique, l'accordéon de Richard Galliano. Il sera en concert samedi à Gavot et passera à cette occasion un petit moment avec nous tout à l'heure. Et puis nous retrouverons comme tous les mardis Thierry Ilerito du Figaro. Il nous dressera cette semaine le portrait d'une jeune luthière récompensée dimanche au concours international de lutherie, Églantine Mainvielle. Avant cela, un petit coup de projecteur sur les autres nouvelles de l'actualité musicale. On vient d'apprendre la disparition de Jean-Marie Villégier la nuit passée à l'hôpital de Brest, à l'âge de 86 ans. Grand homme de théâtre, il était cher au cœur des amoureux de l'opéra. C'est à lui que l'on doit notamment la mise en scène de la production mythique d'Attis de Lully en 1986 à l'Opéra Comique, qui marquera la renaissance de l'opéra baroque en France. Il s'est illustré dans de nombreuses autres productions lyriques à Paris, Strasbourg, Glyndebourg, Bordeaux, Lausanne, Versailles et même jusqu'à New York. Isabelle Delamarre lui avait consacré il y a quelques années un passionnant documentaire accompagné d'un entretien exclusif dans lequel Jean-Marie Villégier était revenu notamment sur l'aventure Attis ainsi que sa reprise en 2011 et bien sûr sur son intense collaboration avec William Christie. William Christie et moi avons toujours travaillé dans un esprit d'atelier, aussi bien en 1987 que lors des spectacles ultérieurs. Je dirais que c'est un état d'esprit qui caractérise toute collaboration avec les arts florissants et qui suppose la recherche, la curiosité, l'implication de la jeunesse et le sens du collectif. Jean-Marie Villégier, dont Philippe Gault vous dresse le portrait dans son article publié sur le site de Radio Classique. Christophe Urbanski vient d'être nommé directeur musical de la Philharmonie de Varsovie et cela à compter de la saison prochaine pour une durée de 5 ans. Un orchestre que le chef polonais connaît bien pour en avoir été chef assistant entre 2007 et 2009. Un poste, ce nouveau poste donc de directeur musical qu'il cumulera avec celui de chef principal de l'Orchestre symphonique de Berne. La Philharmonie de Paris célèbre un forêt intime à l'occasion du 100e anniversaire de la disparition du compositeur français. Forêt, celui des mélodies, du piano, de la musique de chambre, avec pour lancer les festivités jeudi soir, un récital de Cyril Dubois avec le pianiste Tristan Raes autour de la mélodie française, un genre que Forêt a sublimé et transmis à ses élèves. Également à l'affiche, la soprano Marion Tassou avec l'ensemble L'Instant Donné, la pianiste Aline Piboul en conversation avec l'écrivain Pascal Quignard, le quatuor Strada, des musiciens de l'Orchestre de Paris qui joueront en déambulation dans le musée, ou bien encore l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Simone Menezes et avec le chorégraphe Thierry Tionyang, un concert que nous avons évoqué la semaine dernière avec la chef brésilienne. Rendez-vous donc de jeudi à dimanche dans les différents espaces de la Philharmonie, dans quelques lieux plutôt intimes, comme l'amphithéâtre de la Cité de la Musique, où Cyril Dubois et Tristan Raes célébreront jeudi soir le maître de la mélodie.
La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pour toi nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Mais hélas, l'air t'emporte et la terre m'enchaîne sans courriels. Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi tes fleurs sans nombre. Vous fuyez. Et moi je reste seul à voir tourner mon ombre. Ah, mes pieds. Tu fuis, puis puis tu reviens, puis tu t'en vas encore. Mirailleur, aussi me trouves-tu toujours à chaque heure, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi. Prends-moi racine ou donne-moi des ailes comme à toi.
Le papillon et la fleur, la toute première mélodie de Fauré par le duo Cyril Dubois, Tristan Raès, un extrait de leur formidable intégrale des mélodies de Fauré. Ils seront tous les deux jeudi soir dans l'amphithéâtre de la Cité de la Musique pour lancer ce grand week-end Fauré intime de la Philharmonie de Paris.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Si l'accordéon est de plus en plus en vogue, séduit bien des musiciens des nouvelles générations, c'est grâce à lui qui, depuis déjà 5 décennies, a su développer la versatilité de l'instrument et ainsi naviguer entre le tango, le jazz et le classique avec une même sincérité. Richard Galliano sera samedi soir à la salle Gaveau avec le South Czech Philharmonic sous la direction de Jan Talich pour jouer des œuvres de sa composition et il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit apparaître depuis quelques années de jeunes accordéonistes qui se réclament d'ailleurs de votre modèle, comme vos héritiers. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette nouvelle vogue de l'accordéon ?
Oui, en fait, c'était un peu mon rêve, parce que j'ai vécu autour des années 60 un peu une période de rejet de l'accordéon, et comme j'adorais cet instrument et que j'étais en plein apprentissage, je me suis fait quand même un vœu de remettre les pendules à l'heure à un moment donné, et j'ai ouvert une brèche, je pense, autour des années 1970. Et j'ai commencé à faire ce que, aussi bien dans le jazz que dans le classique, dans la chanson aussi. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de chanteurs et chanteuses, de Nougaro à Juliette Gréco, Barbara. Et disons qu'aujourd'hui, je vois un peu le fruit de ce travail que j'ai entrepris, et de par le monde d'ailleurs. Récemment, j'ai animé une masterclass en Allemagne, à Essen, et j'ai entendu des accordéonistes chinois, polonais, de tout pays. Je dis pas que c'est tout, enfin, simplement grâce à moi, mais voilà, je pense que j'ai véhiculé quand même une énergie qui a donné envie, et c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir envie.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que vous vous êtes exprimé dans des répertoires très variés, avec différents partenaires et avec notamment des orchestres symphoniques, comme c'est le cas pour le concert que vous allez donner samedi ou pour votre récent enregistrement dont on écoutera quelques extraits. Alors, l'accordéon, c'est un instrument qui a déjà une dimension très orchestrale. Comment est-ce qu'il se marie avec un orchestre symphonique ?
Oui, en fait, c'est un instrument qui a beaucoup de possibilités et on peut l'employer comme un piano, c'est-à-dire faire une réduction d'orchestre sur l'accordéon. C'est un orgue portatif aussi, et aussi, alors, lorsqu'on joue en orchestre, ce qui est intéressant, ce sont les unissons avec d'autres instruments. Bon, j'ai eu l'occasion, même dans d'autres styles de musique, comme dans le jazz, de jouer avec des trompettistes comme Wynton Marsalis, comme Chet Baker, et les unissons accordéon et trompette sont vraiment très beaux. Et comme je joue aujourd'hui essentiellement ma musique, je m'amuse justement d'aller dans ce territoire, vraiment expérimenter des choses qui font un résultat de sonorité nouvelle, parce que l'accouplement d'un instrument autre avec l'accordéon, ça donne naissance à un autre timbre musical, et c'est vraiment très intéressant, même certaines fois émouvant aussi.
Thank you. Un extrait de la petite suite de Richard Galliano, joué par Richard Galliano avec le South Czech Philharmonic, dirigé par Miran Vaupotic. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce Richard Galliano.
Oui, c'est ça. Et je l'ai rencontré en Tchéquie et on a eu l'idée de faire ce disque ensemble.
Alors dans ce disque, qui est paru sous forme digitale, que l'on peut écouter sur les plateformes, figurent trois œuvres de votre composition, Richard Galliano. Il y a cette petite suite française qui fait référence plutôt à l'univers du Musette.
Oui, du Musette. Enfin, ça va de Debussy au oui. Musette. Ce sont toutes mes expériences à travers la musique française. J'ai vraiment beaucoup écouté la musique de Debussy, les harmonies, et même s'il a écrit essentiellement pour le piano, pour orchestre aussi, bien sûr, d'un point de vue harmonique, je me suis beaucoup inspiré et il y a des pièces qui ressemblent à ça. Il y a aussi un peu un clin d'œil vers Eric Satie aussi. Par exemple, le deuxième mouvement, ou le troisième, je sais plus, non, le troisième, Espiègle, où j'ai employé que des accords mineurs pour faire un thème un peu comme ça, humoristique.
Alors, trois œuvres de votre composition figurent dans cet album, des œuvres à travers lesquelles on voyage, de la France, de cette petite suite jusqu'à Buenos Aires. On y retrouve finalement dans ces œuvres vos références, vos inspirations, l'esprit de ceux qui ont marqué votre parcours durant ces 50 années.
Tout à fait, c'est vraiment un moteur pour moi par rapport à la composition. Chaque fois que j'écris une pièce, c'est déjà très proche de l'univers de la chanson, parce que j'aime beaucoup les mélodies, et je fais toujours référence ou à des gens que j'aime ou des musiciens qui m'ont influencé, notamment dans Madre Perle, le premier mouvement je l'ai dédié à Astor Piazzolla, le second à l'harmoniciste Toots Thielemans, et le troisième mouvement qui est une mazurka en tièze, en grand orchestre. C'était un peu un challenge d'arriver à faire swinguer un grand orchestre qui est une grande machine comme ça. Et j'ai dédié à Eddie Lewis, l'organiste de jazz avec qui j'ai eu le plaisir de jouer.
C'est vrai que vous avez beaucoup joué avec des jazzmen, entre autres. Vous avez beaucoup improvisé sur scène aussi, Richard Galliano. Lorsque vous composez, lorsque vous couchez sur le papier, la musique qui jaillit en vous, est-ce que vous arrivez à retrouver ce souffle, cette spontanéité de l'improvisation que vous avez tant pratiqué sur scène? Ou est-ce que c'est très différent?
Oui, disons qu'au fil du temps, j'ai plus de non pas de difficultés, mais oui, peut-être un peu. Ça m'est un peu plus difficile de fixer des choses par écrit, parce que j'ai tellement l'habitude d'improviser et de composer sur l'instant que voilà, ce qui m'importe, c'est d'arriver à trouver de belles mélodies. Après, elles peuvent être jouées en l'état, comme ça, de manière simple, ou alors je les orchestre, comme j'ai fait, par exemple, pour la deuxième pièce, là.
Contraste.
D'ailleurs, j'ai suivi un peu l'exemple, surtout de Astor Piazzolla. Si on regarde vraiment de près la musique d'Astor Piazzolla, c'est vrai que moi, je l'ai vu vraiment de près. J'ai failli m'y noyer à un moment donné avec mon ensemble Piazzolla Forever. Mais je me suis aperçu que souvent, Astor Piazzolla composait une mélodie qui pourrait être une chanson. Et après, elle est développée. Il change de tonalité, il change de mouvement. Il y a des cadences au milieu, notamment si vous écoutez les quatre saisons de Piazzolla. C'est un homme de chanson. Et moi, c'est peut-être dû à mon passage dans la chanson française, et Dieu sait que j'ai eu de la chance, parce que lorsque je suis arrivé à Paris en 70, très rapidement, j'ai accompagné Serge Reggiani, puis Claude Nougaro, j'ai côtoyé Moustaki, Barbara, Juliette Gréco, et là, après le conservatoire, je dois dire que là, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis imprégné de beaucoup d'émotions, voilà, parce que après le conservatoire de Nice, où j'ai appris j'ai travaillé l'écriture, le trombone à coulisses aussi, j'avais deux choix. Soit aller en URSS à Moscou pour continuer à étudier l'accordéon classique, ou alors aller à Berklee School pour le jazz. Et j'ai décidé de rester à Paris. Et j'ai, pendant 20 ans, j'ai fait le métier vraiment de musicien, musicien de studio aussi, quoi. Voilà. Un peu mon parcours.
Voilà. Et on retrouve ce parcours, toutes ces émotions dans vos compositions. Richard Galliano, l'une des plus récentes, en tout cas celle que l'on découvre grâce à cet enregistrement avec le South Czech Philharmonic, c'est Madre Perla. Qu'est-ce que signifie d'ailleurs ce titre?
Alors, Madre Perla, c'est le nom italien de la nacre.
Ah oui.
Et bon, les boutons d'accordéon, surtout de bandoneon, sont en nacre. Accordéon, ça, à une certaine époque, c'était en nacre. Après, ça a été un peu une matière bakélite ou plastique. Mais il existe encore des boutons, des claviers avec des boutons de nacre. Et donc, voilà, c'est un clin d'œil par rapport à ces instruments-là. Oui.
Et puis, on retrouve dans cette œuvre l'esprit de la danse, avec du tango, de la balade, de la mazurka. Tout votre univers, puisque votre univers, c'est la chanson, c'est la danse.
Oui, oui. Moi, je, voilà, ce qui, vraiment, la musique qui me touche, c'est, bon, les belles mélodies, mais avant tout, peut-être la danse, que ça soit de la musique classique, de la musique jazz ou folklorique, avant tout, c'est, il faut que ça donne envie de danser, de bouger, de, même dans les passages lents, des fois, je m'ennuie lorsque les musiciens s'installent trop dans une torpeur comme ça. Voilà, les passages calmes, pour moi, c'est toujours le calme qui précède la
tempête.
La tempête.
Un extrait de Madre Perla de Richard Galliano. Richard Galliano avec qui nous passons un moment ce soir sur Radio Classique. Une œuvre que vous avez donc enregistrée avec le South Czech Philharmonic. Un orchestre que vous retrouverez samedi soir à la salle Gaveau pour jouer entre autres cette musique, différentes pièces de votre composition. Et ensuite, comment se poursuit cette année 2024 pour vous qui commence à peine? Il y a un autre enregistrement qui va sortir dans quelques jours.
Ah oui, tout à fait. Je dois dire juste une chose importante, c'est que tous les musiciens de cet orchestre qui habitent à 200 km de Prague viennent en bus spécialement à Paris, salle Gaveau, pour ce concert. Et ça, c'est vraiment, ça sera une rencontre très, très, très émouvante et je pense que tout le monde aura très envie de donner le maximum. Dans les autres projets, le prochain projet, c'est quelque chose que j'ai eu envie cet été de remettre une pièce que j'avais jouée dans ma jeunesse, lorsque j'avais 17-18 ans. J'avais fait une adaptation de la Rhapsody in Blue, pour accordéon. Et à l'époque, je jouais vraiment scrupuleusement la partie piano. Bon, je me suis aperçu que c'était un peu une erreur parce que l'accordéon, c'est pas un piano. Il faut vraiment le considérer en tant que tel, quoi. Et donc, pratiquement 50 ans après, j'ai eu envie à nouveau de jouer cette pièce avec mon accordéon aussi que j'utilise depuis plus de 50 ans, mon Victoria, et qui a vraiment beaucoup de possibilités, et j'ai eu envie de l'enregistrer à nouveau, et ce sera d'ailleurs un projet, un disque autour de la musique de Gershwin, et il sortira le 9 février, quelques jours avant la date anniversaire, le centenaire de la Rhapsody in Blue.
Le 12 février.
Voilà, pour le disque, ça sera, je vais enregistrer quelques standards, comme on dit, qui étaient des chansons que Gershwin a composées, et aussi des morceaux que j'ai pensé ont dû influencer à l'époque Gershwin. Alors il y a des pièces, une pièce de Rachmaninoff, deux pièces de Satie, une pièce de Ravel aussi, Debussy. J'ai fait un peu vraiment tout ce qui a pu graviter autour de Gershwin et lui donner à la fois encore envie de faire ce qu'il a fait de si magnifique.
Voilà, et ça sort le 9 février chez Pentatone, et puis d'autres concerts à travers le monde, puisqu'on pourra vous entendre en Autriche cette année. Vous serez l'invité du chef Yatuko Sada. Vous donnerez une tournée en Europe avec le Wiener Concertverein, dirigé par une toute jeune chef, Glass Markanoff, qui vient, je crois, du Venezuela, il me semble.
Oui, tout à fait, oui.
Une création à l'Opéra de Saint-Étienne.
Oui, j'ai une commande d'un petit concerto pour deux accordéons, d'ailleurs avec mon ami Félicien Bru. Je vais écrire un petit concertino musette pour deux accordéons et orchestre à cordes, oui.
Voilà, Félicien Bru, qui est l'un de vos héritiers, hein, qui aujourd'hui contribue à faire rayonner votre instrument.
Et je pense que je vais jouer aussi une pièce que j'ai écrite il y a quelques années, il y a 18 ans, sur le nom de Claude Nougaro. Je me suis amusé à prendre chaque lettre du nom de Claude Nougaro, et bon, j'ai fait un système pour arriver à trouver un mode, et donc j'ai écrit cette pièce qui retrace un peu les années, parce que j'ai côtoyé Claude Nougaro pendant 8 ans, j'ai été son chef d'orchestre, on a fait des chansons ensemble, et dans cette œuvre-là, il y a un peu toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces choses-là, donc on... Voilà.
Et puis il y aura également une création avec l'Orchestre National de Metz. Vous serez invité du Philharmonique d'Erevan, donc une riche année 2024.
Oui, ça fait beaucoup de travail quand même.
Avec toujours le même bonheur, le même enthousiasme.
Oui. En fait, oui, les années passent. C'est vrai que j'avance comme tout le monde en âge. J'ai 73 ans, mais comme on dit... On n'arrête pas parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête, donc j'ai pas envie d'arrêter du tout.
Ben nous, on vous encourage à continuer, on vous retrouvera avec plaisir samedi soir à la salle Gaveau, et on va se quitter avec en avant-première quelques notes de cette Rhapsody in Blue qui sortira au mois de février. Merci beaucoup Richard Galliano.
Merci à vous, merci.
Thank you. Un petit extrait en avant-première de la Rhapsody in Blue de Gershwin, revisité par l'accordéoniste Richard Galliano, un enregistrement qui sortira le 8 février chez Pentatone. Richard Galliano en concert, donc samedi soir, à la salle Gavo avec le South Czech Philharmonic sous la direction de Jan Talić.
Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, une jeune gambiste qui a plus d'une corde à son arc.
En effet Laure, puisqu'elle vient d'être distinguée par la Philharmonie de Paris, non comme musicienne, mais comme talent de demain dans le domaine de la lutherie. Et oui, la jeune angevine d'à peine 21 ans, qui répond au doux nom prédestiné d'Églantine Mainvielle, s'est vue décerner ce week-end le deuxième prix du concours international de lutherie de la Philharmonie de Paris, co-organisé avec une association que nous connaissons bien, Talents et Violoncelles, cette formidable association fondée par Raphaël Pidou, avec pour but de trouver des instruments de qualité pour les solistes de demain. Et c'est donc dans cet esprit de transmission, de soutien aux jeunes talents, que le concours avait cette année décidé de faire sa place aux étudiants luthiers, en créant la catégorie donc « Talents de demain ».
Étudiant luthier dont fait partie justement Églantine.
Eh bien oui, la jeune femme est en troisième et dernière année à la prestigieuse École de lutherie du Mirecourt, une école nationale qu'elle avait donc la responsabilité de représenter sur cette seconde édition du concours avec un cahier des charges bien précis. Alors, il s'agissait de réaliser à partir des dessins techniques et de toute une série de mesures, d'indications de matériaux, une copie d'un instrument mythique appartenant au musée de la musique, le fameux Sarasate de Stradivarius dont on fête justement cette année le tricentenaire. L'instrument étant daté de 1724.
Et on imagine qu'il s'agissait là d'un exercice pour le moins intimidant pour cette jeune étudiante.
Hein. Oui, c'est peu de le dire, Laure, même si Églantine préfère parler d'instruments contemporains inspirés du Sarasate plutôt que de véritables copies. Mais pour être parfaitement honnête, eh bien, elle n'est pas la seule étudiante de Mirecourt à s'être pliée à l'exercice. Il avait été confié l'an dernier à l'ensemble des élèves de deuxième année de l'école. En juillet dernier, élèves et professeurs ont donc choisi parmi l'ensemble des violons réalisé, celui ou ceux qui représenteraient l'école. Et c'est celui d'Églantine, à côté d'ailleurs de celui d'un autre camarade qui est ressorti à sa plus grande surprise. Pour la petite histoire, figurez-vous que celle qui préfère dire que ce prix récompense avant tout l'école et la qualité de l'enseignement du Mirecourt plus qu'elle-même s'est prêtée au jeu de l'écoute à l'aveugle des trois instruments finalistes. Et le violon qu'elle avait le moins aimé, eh bien c'était le sien, confie-t-elle avec humilité et sincérité.
Il faut dire que c'est un exercice particulier. J'étais là dans le public, l'écoute à l'aveugle, c'est très difficile avec des violon assez extraordinaire, puisque c'est bien à l'aveugle qu'étaient jugés les violons lors des demi-finales et de la finale.
Eh bien oui, avec quatre critères principaux, selon Gilles Henry, c'est l'un des musiciens de l'Orchestre de Paris qui était invité à jouer les instruments devant le jury, la facilité de jeu, l'équilibre tonal entre les graves, les aigus, la variété des timbres et la rapidité d'émission, des enjeux auxquels Églantine, qui pratique la viole de gambe depuis l'âge de 6 ans et étudie désormais le violoncelle mais aussi l'alto à Mirecourt, en plus de ses cours de lutherie, est évidemment particulièrement sensible.
Et pourtant, Thierry, la jeune femme n'est pas spécialement d'une famille de musiciens.
Eh bien non, elle est née près d'Angers, mais ses frères et sœurs ont tous, comme elle, pratiqué la musique enfant. Alors si elle ne se souvient pas ce qui l'a poussée si jeune à se tourner vers la viole de gambe, elle concède que le choix de cet instrument, avec les fréquents allers-retours chez le luthier qu'il suppose, n'est sans doute pas étranger au développement de sa vocation. C'est toutefois à l'adolescence qu'elle a vraiment le déclic. C'est pendant un stage de troisième qu'elle avait décidé de faire dans un atelier de lutherie, donc près de chez elle. J'ai tout de suite trouvé ça fabuleux, explique-t-elle, comme si tout coïncidait. À 16 ans, bac en poche, eh bien, elle s'offre le luxe d'abord d'une année de classe prépa scientifique pour réfléchir. Et puis au terme de cette année, la passion ne s'étant pas éteinte, elle embraye sur un CAP d'ébénisterie dans la Sarthe. Elle a 18 ans lorsqu'elle rejoint finalement la prestigieuse école Vosgienne de Mirecourt, qu'elle quittera donc l'été prochain, direction un atelier de lutherie pour y parfaire son apprentissage. Alors où, eh bien, l'avenir le dira, mais si possible, partout sauf à Paris, précise-t-elle.
Thank you. Un petit extrait de la fête champêtre de Marin Marais par l'ensemble La Rêveuse. C'est un choix d'Églantine Mainvielle.
Exactement, voilà, l'une de ses pièces préférées.
Tracé le portrait. Merci beaucoup Thierry et à la
Merci
semaine
à
prochaine.
Vous,
merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Kazuki Yamada, le directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée sur Radio Classique avec Francis Drezel.